choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue là, c'est sérieux, sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voies du scénarium. J'allais dire l'émission qui parle truchement, mais c'est pas la bonne. Je ne suis pas tout seul ce soir, je suis au micro avec Nolwenn. Ça va, Nolwenn?
Eh oui, ça va, et toi?
Ça va. Si vous nous écoutez ce soir, sachez que vous êtes des petits chanceux, puisque l'émission de ce soir a failli ne pas voir le jour, simplement parce que j'ai passé la moitié de l'après-midi, plutôt que de bosser, à attendre que les gens d'Enedis veuillent bien remettre le courant dans ma rue. On les salue et on leur dit bah, bossez un peu plus parce que ça m'a un petit peu fait suer. Bref, une émission qui a failli être chaotique et une émission qui sera forcément un peu plus freestyle que ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. De quoi qu'on va parler? Déjà, on va commencer par parler d'un truc que vous avez peut-être entendu parler.
C'est très français, ça.
Ouais, c'est. C'est
tout va bien. Ouais. On a compris le message, pas de souci.
Voilà. Alors, c'est un truc que j'ai pas encore vu. C'est l'adaptation de The Electric State par Netflix, basée sur l'ouvrage de Simon Stalenhag. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que j'aime bien faire des trucs où je l'ai pas testé, en fait. Parce que moi, j'ai lu le bouquin en version anglaise, sachant que la version française a été traduite chez Arcane Asylum. J'ai pas la version française, donc je me suis passé sur la version anglaise que j'avais déjà depuis un petit moment.
You are bilingue?
Yes. I speak English. I read English very well. Not sure.
Your Taylor is rich.
Je vois pas le problème avec Taylor Swift, moi, mais du coup. Bref. The Electric State. Du coup, on a une version Netflix. On a aussi un jeu de rôle qui devrait probablement atterrir chez Arkane, puisque c'est eux qui ont fait les adaptations aussi de Tales from the Loop et de The Things from the Flood, qui sont aussi issu de l'univers de Simon Stalenhag. Et du coup, on a ce film dont je vais vous laisser écouter la bande-annonce avant de continuer à en parler.
L'insurrection des robots a été violente.
On se replie !
Il mange pas. Il dort pas, il ferme pas les yeux. Je les ferme, moi.
Lorsque les machines ont dévié des tâches qui leur étaient attribuées, nous les avons exilées dans The Electric State. Un territoire sécurisé de 250 000 km².
Vous dites que vous n'avez jamais possédé de robots, c'est vrai?
Je n'ai pas confiance en eux. Ils ne sont pas comme nous. Alors comment pourraient-ils comprendre ce qui sert le mieux nos intérêts?
Mon frère, je croyais l'avoir perdu. Mais il est encore là, quelque part.
J'ai arrêté de me battre parce que la guerre avec ces robots était injuste. Tu veux aller récupérer ton frère? Je viens avec toi.
Alors, Arnoren a découvert la bande-annonce en même temps que vous l'écoutiez.
J'avais vu des extraits. J'avais vu des extraits en réalité. Je me rappelle des bribes de visuels.
Ok. Et qu'est-ce que t'en penses en cours. Si je peux te lancer, on en a pour une heure. Mais
en concis. Ça a l'air bien, mais j'ai l'impression que ça arrive à un moment où on parle tellement de robots et d'IA que. Ça risque d'être noyé dans la masse de contenu qu'il y a déjà autour de tout ça. Enfin, c'est mon impression.
Ok. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise analyse. Moi, ce que je trouve dommage, mais encore une fois, je ne vais pas juger le long métrage. On ne peut pas juger un long métrage à l'aune de sa bande-annonce. Non, mais on parle aussi. J'ai aussi parlé brièvement du jeu de rôle que je n'ai pas encore testé, hein, mais qui va se faire très, très, très prochainement. Là, on nous met un truc, on nous dit qu'il y a eu une guerre, on nous présente des personnages qui ont été intégrés dans cette guerre-là. La guerre, dans l'ouvrage de Stalenhag, elle est vraiment en lointain filigrane. On n'a que quelques pages qui nous relatent une guerre dont on ne sait que peu de choses. L'histoire de The Electric State de Stalenhag, c'est l'histoire de Michelle, une jeune fille, qui, en compagnie de Skip, prend la route. Elle va traverser ce qu'on va appeler Pacifica, dont on ne sait que peu de choses, à part que c'est globalement déserté et qu'on y trouve de nombreuses machines. Un autre élément qu'on sait, c'est que la plupart des adultes ont fini par être, on va pas dire abandonnés, mais non, enfin oui et non. En gros, ils ont été complètement absorbés par ce qu'on va appeler des neurocasters, qui sont des espèces de casques de réalité virtuelle dans lesquels les adultes se sont complètement perdus, laissant de nombreuses personnes à l'abandon.
Ils ont trop joué à Fortnite.
Désolé si vous aimez
Fortnite. Allez, je le sorte.
Et en fait, on va suivre cette jeune fille en compagnie de Skip. Au départ, on ne sait pas trop qui est Skip. Très vite, on identifie Skip comme étant un petit robot. Et on ne sait pas vraiment ce qu'elle recherche. Alors, dans la bande-annonce, on nous le dit. Ce sera plus un secret, mais c'est le voyage qui compte. Et le jeu de rôle, de ce que j'en ai compris, on va mettre un groupe de personnages dans une bagnole, un fourgon, et on va leur faire un voyage avec un certain nombre d'étapes. Et c'est surtout les moments que vont passer les gens ensemble qui va compter. C'est le voyage, pas la destination qui compte.
C'est philosophique.
Il y a un côté très philosophique. Alors, je suis un très grand fan de Stalenhag parce qu'il a une patte graphique. Alors, je t'ai pas passé le bouquin, mais...
Oui. J'avais pu voir des visuels et j'avais pu comparer un peu avec quelques jeux vidéo et autres BD que j'avais vu passer.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as parlé d'un jeu qu'a fait Richard avec Pacifica dans le nom...
Pacific Drive. Mais c'est uniquement sur le visuel des machines et le côté post-apo que ça m'y a fait penser. Je pense que ça a vraiment rien à voir. C'est juste moi qui ai fait le rapprochement... première impression.
Mais il est possible que ça y ressemble. Il y a des visuels quand même qui...
Moi, j'ai pas fait tout l'artbook, donc je saurais pas te dire. En revanche, ça, faut le voir dans le trailer. Je trouve que le petit personnage robot Skip, c'est ça ?
Ouais.
Il a un design vraiment qui fait très Cuphead. Je trouve. Et ça a un côté un peu... Il est un peu dans la vallée de l'étrange en termes d'esthétisme, je trouve.
en gros,
ni trop humain, ni trop robot, tu sais pas où le placer, c'est un côté un peu dérangeant.
Pour donner un peu plus de contexte à ça, en fait, il faut savoir que les gens peuvent piloter ce qu'on va appeler des drones. Et Skip est un drone qui représente un personnage de dessin animé, en fait, dont on va retrouver, et le jeu, l'ouvrage se déroulant dans la fin des années 90, on peut retrouver aussi ce design un peu cartoon qu'on retrouvait dans les années 70, puisque c'est les dessins animés qu'on peut être vus. Et tu vois, là, tu viens de passer sur une page noire. Les pages en noir, on ne connaît pas le nom de la personne qui parle. C'est quelqu'un qui relate des passages de la guerre.
Effectivement, c'est en italique, donc l'écriture est en italique et ça change italique gras, ça change de l'écriture qu'il y a sur les pages blanches. Ok, j'avais pas remarqué, effectivement, je feuillette.
Et si vous avez l'occasion, en fait, alors, je vous invite, moi, quand votre émission sera finie ou si vous êtes sur un ordinateur, à taper Simon Stellanag. Il a une patte graphique très particulière, puisque ce sont souvent des scènes de vie quotidienne dans lesquelles on va avoir rajouté des anomalies, des choses un petit peu bizarres,
des cadavres,
des robots, des cadavres. Non, les cadavres, c'est pas tout à fait des cadavres. C'est plus complexe que ça.
Ok, tu m'intrigues.
Et puis là, t'es dans un passage un peu particulier. Bref, Stellanag, il a fait déjà donc Tales from the Loop, un jeu qui a été un carton dans lequel on va jouer des enfants dans les années 80 qui n'ont jamais existé. Ensuite, il a fait Things from the Flood, qui peut être considéré comme une continuité, où ce sont plutôt des années 90 qui n'ont jamais existé, mais plutôt très pessimistes, là où on avait un côté très optimiste de la jeunesse dans Tales from the Loop. Et puis là, The Electric State, moi je vais découvrir dans très peu de temps, j'aurai l'occasion de vous en reparler à la suite.
Les illustrations sont magnifiques et vraiment l'ambiance qui s'en dégage me fait penser du coup à Pacific Drive, mais c'est très singulier. Faut le voir pour vraiment toucher l'atmosphère et vraiment c'est vraiment les designs de machines très cartoon dans des paysages désolés, ça tranche, c'est super beau.
Ouais, c'est vraiment très très sympa. Mais c'est Stellanag, c'est vraiment cool si vous aimez, si vous avez envie de voir des artbooks. Alors, je dis artbook parce que on a une grande partie image et puis on a une partie texte qui est là pour raconter un petit peu l'histoire de ces images et qui la romance un petit peu. C'est vraiment très cool. C'est pas, si vous avez un anglais plutôt correct en anglais, c'est pas très compliqué à lire. Il y a des passages où vous allez dire, ouais, je connais pas ce mot-là, mais globalement, ça cite très très bien et les ouvrages sont disponibles en français chez Arkane Asylum. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment de la très très bonne cam. Ce que je te propose, c'est de te faire ton petit générique et puis on va faire ta chronique, ma chère Nolwenn.
Ça me va.
Ça te va? Alors, il faut juste que je sorte ton générique. Qui
que
veut
tu as
pas. Oui, je l'aime, mais il veut pas là. Ah, c'est pas bien.
Tu le fais à la voix. Vas-y, improvise.
J'en ai marre d'avoir raison. Non, allez, on y va.
Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement.
De quoi tu nous parles ce soir, Nolwenn ?
Je vais vous parler d'une créature dont la vision est basée sur le mouvement.
Oh.
Et ce n'est pas celle à laquelle vous pensez.
Ah !
Ah, oh, j'aime beaucoup ces réactions continues comme ça, c'est parfait. Effectivement...
Je propose une nouvelle émission à la radio.
Eh ouais, il va falloir que tu fasses que des bruitages comme ça.
Oh.
Donc oui, la vision de cette créature est basée sur le mouvement, parce qu'en fait, notre passion du jour n'est autre qu'un cyclope atteint de strabisme.
Ah.
Et oui, ça peut arriver. Enfin, on imagine. Et donc, en comparaison de la chronique que j'avais déjà faite sur la bicéphalie, si vous vous souvenez, avec Cerbère, où là, il y a eu quelques cas qui ont été observés de façon assez ponctuelle dans le règne animal, la cyclopie, c'est une malformation qui est physique et qui est vraiment encore plus cryptique. Pour recontextualiser, le cyclope le plus célèbre, c'est sûrement Polyphème, qui est le fils de la nymphe Tosa et de ce coureur de jupons de Poséidon. Et on a aussi dans la saga Percy Jackson, cette créature humanoïde qui peut être incarnée par Tison. Et dans les bestiaires de jeux de rôle, évidemment, le cyclope a droit à sa fiche de stats, bien entendu. Sa description d'ailleurs, elle y est vraiment très simple. Je cite, « Les cyclopes sont des géants n'ayant qu'un œil au milieu du front qui subsistent comme ils peuvent dans les terres sauvages. » Voilà. Simple, efficace.
Voilà.
Mais, avant d'aborder le problème du strabisme, je voudrais juste revenir sur la représentation de cette créature. Dans les folklores, le cyclope, c'est en tout point un être apparent, un humain plutôt normal. Parfois, il peut être atteint de gigantisme, c'est-à-dire avoir une taille vraiment démesurée. Bon, admettons qu'il soit atteint de gigantisme, admettons. Surtout, c'est son visage qui est normalement proportionné, à l'exception de son œil unique qui se centre au-dessus du nez. Et c'est là que la légende vient se confronter avec la réalité. En fait, dans les cas de cyclopiques qui ont été observés durant les derniers siècles, les très rares cas d'ailleurs, je précise, aucun des bébés, des nouveau-nés n'avait de nez. Certains avaient une bouche, mais elle était parfois mal formée et ils avaient aussi souvent des malformations cardiaques. Leur visage, quant à eux, était donc plat, avec un œil central dépourvu d'orbite et de paupières. C'est assez perturbant à regarder. Si vous trouvez des images sur Internet, moi, ça m'a un peu interloqué.
Bah, t'écoutez, c'est cauchemardesque, hein, quand
même. Non, vraiment, c'est, je suis allée voir, rien que sur la page Wikipédia, c'est un peu bizarre. Et c'est pas des chimères ou quoi, hein. C'est vraiment des
malformations, ok.
Un des derniers cas qui a été observé, je crois que c'était en Égypte en 2014 ou 2015. Il y a leur référence qui est sur la page Wikipédia, je vous laisserai aller la voir. Donc, la cyclopie, hein, cette malformation génétique, elle peut être d'origine congénitale, donc quand les parents sont trop proches dans la lignée de la famille, ou bien l'origine peut être extérieure, par exemple si la mère elle est soumise à des radiations ou à des perturbateurs endocriniens. Et en fait, cette cyclopie, elle peut aussi toucher les animaux. Ce qui se passe, c'est qu'au moment du développement du fœtus, les deux orbites vont fusionner au niveau du front, et le nez, lui, il pourra pas se développer. Si vous voulez briller en soirée mondaine, on parle d'arynie. Très rarement, des cas de cyclopie chez l'humain sont observés. Donc, comme je disais, il y a eu un dernier cas en 2014 ou 2015. Mais ça a été aussi observé chez quelques mammifères, comme des chèvres, par exemple, ou bien des poissons comme les requins. C'est vraiment très étrange à regarder.
Un requin avec un œil.
Oui, et il y a eu un cas d'agneau avec un œil. C'est terrifiant. Voilà, imaginez-vous bien ça.
J'espère que vous n'avez pas couché vos enfants, comme ça vous aurez à vous réveiller cette nuit.
Ouais, c'est ça. Bon, alors après, vous vous en doutez, des telles malformations, c'est pas viable parce que le nouveau-né, il va mourir quelques minutes ou heures après sa naissance. Ce qui prouve que, voilà quoi, on peut pas se passer d'un bon déroulement de l'embryogenèse pour la survie et l'intégrité physique, en fait, du bébé. Mais bon, on a besoin pour cette chronique d'avoir un cyclope. Donc passons. Imaginons que chez certains humains isolés, voilà, il y a une contre-mutation qui intervienne lors du développement embryonnaire, que l'individu soit viable avec ou sans nez. Voilà, il a un œil en tout cas, et il peut survivre. Ça y est, on peut donc aborder la deuxième question que tout le monde se pose, vraiment tout le monde, je suis sûre que vous vous la posez. Est-ce que les cyclopes peuvent être atteints de strabisme? Et je suis sûre que cette question vous hantait jour et nuit depuis des années. Je suis sûre. Et dis donc, Jamy, c'est quoi le strabisme? Et oui.
Et dis donc, Jamy.
Alors, pour bien savoir de quoi on parle, je vous propose de prendre la définition de Leila Kazaini, qui est donnée dans le manuel SMSD. Le strabisme correspond à un mauvais alignement des yeux, ce qui provoque la perte du parallélisme normal du regard. On voit à peu près à quoi ça correspond.
Non. Mais si, en fait.
Merci, quand même. Fais un effort. Et il y a, en fait, deux types de déviations qui peuvent provoquer le mauvais alignement des yeux. On parle des yeux, mais on va y revenir sur notre cas de cyclope. La première déviation est dite une déviation tropie. C'est-à-dire que le regard dévie et cette déviation est visible lorsque les deux yeux sont ouverts. Elle peut toucher, cette déviation, un œil ou les deux. C'est-à-dire que soit vous avez un œil qui dit merde à l'autre, soit les deux se font la gueule. La seconde, c'est la déviation dite phorie. Celle-ci, elle est peu discrète parce que, en fait, on peut la détecter uniquement lorsqu'un œil est caché. C'est-à-dire lorsque la vision est monoculaire. Il y a des tests ophtalmologiques, par exemple, où on vous cache un œil pour voir si votre second œil dévie. Pour nos cyclopes, eux, ils n'ont qu'un seul œil. Donc, s'ils sont atteints de désalignement du regard, on peut suggérer qu'il s'agisse de phorie. Si on part du principe que l'œil unique des cyclopes est correctement formé, et donc c'est notre théorie de départ, les causes d'un désalignement du regard, donc de strabisme, pourraient être celles connues par la médecine actuelle. Parmi les causes qui expliquent ce handicap visuel, il y a par exemple des facteurs de paralysie cérébrale, par exemple des nerfs crâniens qui sont paralysés, ou bien des infections. Il y a certaines maladies qui vont interagir sur la bonne intégrité de la vue. Et aussi, on retrouve parfois des différences de motricité entre les muscles oculaires, c'est-à-dire qu'il y a des yeux qui sont plus musclés que d'autres. Et bon, si un cyclope est atteint de strabisme, je pense que son plus gros handicap, ce serait non pas de marcher en crabe, mais de ne pas pouvoir porter de lunettes si jamais il n'a pas de nez.
Ouais, ouais.
Parce que sans lunettes, pas de correction, et donc le regard ne serait pas aligné.
Le nez ou les oreilles du coup ?
Le nez ou les oreilles, ouais. Sachant que les cyclopes ont des oreilles, dans les cas observés, ils avaient leurs oreilles.
Ok.
En fait, ce qui se passe, c'est que la malformation, la cyclopie, j'ai pas...
C'est que la face.
Ce qui se passe, c'est que le développement embryonnaire va être un peu bloqué. C'est-à-dire que le corps ne va pas se... la symétrie du visage ne va pas se développer, elle va être stoppée en quelque sorte. Ce qui fait que vous n'avez pas à voir, même au niveau de la boîte crânienne, votre cerveau, il va être un peu fusionné. Vous n'allez pas avoir les deux encéphales.
Ok.
Voilà.
Charmant. Je vais prendre des trucs pour dormir, moi, ce soir, je pense.
Non, non, tu iras voir les images, comme ça, tu sauras bien de quoi je parle. Si vous êtes curieux et si vous êtes amateur de curiosité morbide, voilà, allez voir, ça va vous inspirer.
Merci beaucoup, Nolwenn. Tu te demandes très certainement ce que je te réserve pour la prochaine chronique.
Oui, vas-y, dis-moi.
Allez, on va faire dans un truc très simple. Le chat est-il une créature de l'enfer ou non ?
Tu peux répondre tout de suite ou...
Non, je veux que ce soit circonstancié et un petit peu travaillé.
Très bien, ça me va. Ce sera plus léger.
Ce sera sans doute plus léger. Et puis on va parler après la pause musicale de chat aussi, de chat dans le jeu de rôle. Et en attendant, je vous fais une petite pause avec Chu Tayusei, qui est la chanson de la chanteuse Anno pour un des endings de l'anime Chainsaw Man que je viens de regarder, et c'est de la balle. On se retrouve sur le 101.5 de Radio G dans quelques instants.
Bye.
Et c'était Anno sur le 101.5 de Radio G avec To You Say qui sert d'ending à Chainsaw Man, la série animée. Truc cool sur cette série animée, c'est que chaque épisode a son propre ending. Ouais. C'est toujours le même opening, mais chaque fois un nouvel ending.
Stylé.
Vraiment cool. Je t'ai dit qu'on parlerait, je t'ai demandé de me parler de chat.
De chat. De miaou.
De miaou. Et on va parler de chat là maintenant tout de suite. Puisqu'en fait, on se rend compte que le chat, c'est une créature qu'on trouve un peu partout. Et on l'a trouvé notamment en manga. En manga dans un univers adapté en jeu de rôle. Et je veux bien entendu parler des chefs-d'œuvre de Lovecraft publiés chez Kiun, qui a publié il y a peu de temps le recueil Les Chats d'Ultar par Gutanabe. Tu connaissais déjà ça ou pas? Oui, t'avais déjà parcouru un de ces bouquins comme ça.
T'en avais déjà emmené un, il me semble.
Ouais.
On en avait peut-être déjà parlé même.
Et là, en fait, on est dans un recueil avec trois nouvelles, dont une s'appelle Les Chats d'Ultar et qui montre comment dans une ville des contrées du rêve, on n'a pas le droit de faire de mal à un chat si on veut pas saturer un gros problème. Si vous avez jamais lu, on parle d'autre chose que de JDR ce soir, mais si vous avez jamais lu en fait les ouvrages comme ça de chez Kiun, allez-y, ils sont non seulement super beaux, le graphisme est vraiment dingo, et la façon de l'ouvrage elle est vraiment super belle. On a un effet cuir sur le dessus, on a... C'est sans doute le meilleur bouquin que j'ai vu depuis bien longtemps.
Moi, j'ai ouvert les pages de du coup qui sont c'est en noir et blanc.
Oui.
On précise.
Avec des noirs très noirs et des blancs très blancs.
C'est
souvent.
Ça. Il y a du noir, du blanc et du gris quoi. Et vraiment, c'est très marqué entre le noir et le blanc. Du coup, les gris ils font absolument tous les gradients. C'est super beau. Dans les pages qu'on peut feuilleter, moi, ça m'a fait penser au visuel du jeu Blasphemous.
Oui.
Mais du coup, sans les couleurs. Jeu Blasphemous qui est les parties gameplay sont voilà c'est très minimaliste voire pixelisé mais il y a quelques cinématiques ou quelques scènes illustratives et vraiment ça me fait penser à ça c'est presque des airs de enfin les visages ils ont presque des airs un peu chérubins pour le héros principal et c'est,
ah je vois ce que tu veux dire
un côté un peu c'est beau c'est bien fait mais en même temps c'est trop bien fait il y a un côté dérangeant
et c'est le côté très dérangeant ouais
c'est ça il y a vraiment enfin cette case là ça fait très Blasphemous
effectivement ah. Après c'est peut-être la seule case comme ça
c'est
dans
peut-être
le...
la seule case comme ça mais puis le côté foi religion avoir la foi ne pas flancher ouais. Tout ça me fait penser. Mais je n'ai pas tout feuilleté et je pense qu'il y a bien plus à dire que juste « Oh, ça ressemble à Blasphemous ».
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus. Mais ce n'est pas le sujet. Puisque le sujet, ça, c'est la passerelle vers le sujet.
Waouh !
Qu'est-ce qu'on a comme jeu de rôle avec des chats ? Est-ce que tu en connais déjà ?
Alors, il y a Donjons et Chatons, si ma mémoire est correcte.
Ouais.
Et il y a les Miaulements d'Ultar, non ?
Ouais.
Quelque chose comme ça ?
Tout à fait.
Et sinon, c'est vraiment les deux seuls que je vais connaître.
Eh ben, je pense que...
Ça m'étonnerait pas, excuse-moi, ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas des jeux de rôle La Guerre des Clans, qui soit donc plutôt en anglais,
ah oui.
Mais un peu fan-made.
Une série enfin, de
Warriors,
romans,
ouais. en anglais. Ça m'étonnerait tellement pas.
Eh ben, faudrait que je regarde.
Il n'y a peut-être pas des bouquins d'édition encore.
Parce qu'effectivement, moi, sur les quatre que j'avais sélectionnés, alors, j'ai pas trouvé La Guerre des Clans. J'ai pas fouillé suffisamment. Mais on avait effectivement Donjons et Chatons, dont j'avais déjà parlé ici, qui est juste sublime et qui est. D'ailleurs, je suis en train de découvrir qu'il y a un supplément qui s'appelle Aux Sources de la Magie. Mais il faut que je me l'achète tout de suite. Non, Donjons et Chatons, où on va jouer des chatons et d'autres choses qui sont bannis de leur village et qui doivent accomplir une quête. Et qui doivent aller restaurer un petit peu, revenir une fois cette quête accomplie pour pouvoir rejoindre leur village. Un ouvrage très cool, très beau.
C'est tout pipou.
C'est tout pipou avec des super dessins. Je sais pas si je vous avais pas déjà fait une interview de l'auteur. Bon, bref, peut-être à corriger ça si c'est pas fait. On a effectivement les Miaulements d'Ultar, mais que je vais garder pour un tout petit peu plus tard, mais je t'expliquerai pourquoi. Donc je reviendrai. On a l'appel de Chatoulou, qui est un jeu de rôle pour 3 à 6 joueurs. Je vous lis le synopsis de l'éditeur. Les étoiles sont alignées, la réalité comme on la connaît est menacée par les grands dieux animaux, et les seuls capables de leur faire face sont, comme H.P. Lovecraft a plusieurs fois imaginé, les chats. Les deux pattes sont tellement stupides qu'ils ne peuvent se défendre tout seuls des grands anciens. C'est vrai, mais si l'humanité devait être détruite ou réduite en esclavage par le grand chat-loup, qui resterait pour ouvrir les boîtes de nourriture pour chats? Donc, un jeu avec des chats en héros, avec un système de jeu qui était de mémoire assez simple, et c'est vraiment un petit jeu plutôt cool à faire.
Je connaissais vraiment pas du tout.
Moi j'ai un set de dés, l'appel de Chatoulou, avec
pardon.
Oh, c'est la fatigue. Ouh,
un petit coup de fatigue, ouais. Sur les faces, on a
des petits chats,
des petites têtes de chat. Regarde, ils sont trop mimi, les poupilles, les dés. Oh. Voilà.
Trop mignon.
Il faut savoir qu'apparemment, il y a eu une version italienne qui s'appelait Il Chiamo di Gattolo, avec mon sublime accent italien.
Quel accent ? Mais attends, mais du coup, t'es trilingue ?
Je suis. Non, j'en ai qu'une.
Waouh, merci.
Désolé, pardon. Mm. Voilà. Donc, l'appel au Chatoulou, qui est plutôt cool. Et ça fait un manuel de 168 pages, format A5. C'est un petit livret qui est plutôt accessible et facilement trimballable partout.
Je bug parce que c'est en train de me faire penser à un point and click qui s'appelle le Gibbous, le culte de Gibbous, je crois.
Ouais, avec des chats.
Avec des chats, et il y a le côté un peu culte secte, mais... voilà, ça arrive un peu tard.
Ça marche, effectivement.
C'est basé sur un culte de Cthulhu aussi, ou c'est vraiment à part?
Parce que c'est basé sur l'appel de Cthulhu, en fait, okay. Simplement.
J'étais pas du tout allé loin dans le jeu, donc.
Non, c'est. En fait, sur les quatre jeux que j'ai sélectionnés, il y en a deux qui sont basés sur les écrits de Lovecraft.
Ok.
Donc, voilà. Okay. Dont les Miaulements d'Ulthar.
Yaou.
Black Book qui avait fait Cats, la mascarade. Qui était une parodie de vampire.
Oui.
T'as déjà joué?
Richard a participé au financement, il me semble. Il doit avoir un truc, il doit avoir une boîte avant-première ou il doit avoir un kit de démarrage. Un kit de démarrage, ouais. Qu'on n'a jamais testé.
Mais l'ouvrage est superbe.
C'est très beau.
Et ça marche apparemment très très bien. Je connais plein de gens qui l'ont, qui ont joué. Et ce qui est vraiment cool. Je vous fais le synopsis, éditeur.
Oui.
Avec la grosse voix. Depuis des millénaires, la Terre porte un secret farouchement gardé. L'être humain n'est pas la seule espèce intelligente qui arpente sa surface. Et ce n'est pas tout. Non seulement elle n'est pas la seule, mais elle n'est ni la première, ni la plus brillante. Car cette place revient au chat. Oubliez tout ce que vous avez appris dans les livres d'histoire et laissez parler le félin qui sommeille en vous. Dans Cats, la mascarade, le chat, c'est vous. Cats, la mascarade est un jeu de rôle complet qui ne nécessite que quelques feuilles de papier, des crayons et une poignée de dés en plus du présent ouvrage. Donc on joue des chats qui vont faire des complots.
Ça a l'air, ça me donne vraiment envie d'y jouer du coup.
Ouais, c'est fun.
J'avais pas pris le temps ni même de lire le scénario. Je sais juste que voilà, c'était des chats, mais oui.
Les chats, en fait, ils vont être organisés en différentes factions, sous un conseil principal, mais ça ressemble quand même vraiment beaucoup à Vampire, parce que c'est une parodie hein, de Vampire, la mascarade. Et du coup, c'est vraiment du complot politique, des choses comme ça, avec des missions.
Ok, bah, Vampire, la mascarade, je connais pas non plus. À vrai dire, je suis pas une bonne élève, parce que, à part Donjons et Dragons et Tindalos...
Mais
il y a quelques scénarios de Globetopus que j'ai fait, mais voilà, je découvre pas beaucoup de nouveaux jeux de rôle, donc.
C'est l'occasion.
Si seulement je connaissais quelqu'un qu'on connaissait plusieurs. Ah là là.
Mince alors. Et pour finir, les miaulements pourquoi il y a marqué les miaulements des chats d'Ulthar? Parce que c'est marqué les miaulements d'Ulthar, qui a été fait par Xavier avec 4 i.
Xavier? Ah oui, il n'y a pas de i entre le x et le a. Oui,
ouais. Ça fait un peu... Ça fait bizarre. Je voulais le pitch.
Oui.
Du pulp, du fun ou du sérieux, Les Miaules Mandultars est un jeu de rôle où vous incarnerez des félins venant des contrées du rêve. Vos chats, nommés les gardiens d'Ultar, sont envoyés par la déesse Bast pour enquêter et agir contre les intrusions du mythe de Lovecraft dans le monde réel ou celui de la contrée du rêve. Ils possèdent des pouvoirs mystiques qui leur permettent d'agir malgré leur taille et leur fragilité. Et le petit truc super cool, c'est que le système de règles des Miaules Mandultar permet de jouer dans les bouquins de base, enfin les bouquins de l'Appel de Cthulhu.
Oui, ça effectivement j'avais l'info.
Et ça je trouve ça super
cool. C'est tellement bien foutu.
Alors pourquoi je vous parle des Miaules Mandultar?
Oui, pourquoi?
Eh ben parce que déjà je vais interviewer l'auteur dans pas longtemps, donc ce qui sera cool de pouvoir le laisser parler de son jeu, un jeu qui a l'air cool déjà. Et puis, si on arrive à se caler correctement, Xavier, on va l'appeler comme ça, va nous masteriser une partie des Miaules Mandultar qu'on sonorisera. Donc, si tu connais quelqu'un qui fait super bien le
non,
chat,
je connais
ça
personne
pourrait être super drôle.
Bah, il y a mon chat.
Il y a ton chat. Voilà. Ouais, mais alors, il sait pas lancer les dés.
Non, mais je le ferai pour lui. Non, mais je connais personne qui imite bien les animaux et qui fait des bruitages et qui aime le jeu de rôle. Du coup, bah, dommage.
Quel dommage.
Voilà, mince alors.
Tant pis. En plus, j'imagine qu'ils nous écoutent même pas, donc.
Je suis sûr qu'ils nous écoutent pas. Hein.
Quelle vie. Hein. Les Miaules Mandultar, c'était en financement participatif sur Game on Tabletop. Ça a déjà atteint le palier pour son financement. Ça a même dépassé puisqu'on est à 390%.
Rien que ça.
Et c'est actuellement en late pledge pour encore 105 jours. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à y aller. C'est l'occasion d'aller soutenir déjà un jeu qui a l'air vachement cool et puis d'avoir un bouquin
sur les chats
qui vous coûtera pas trop cher. Puisque sur la
les visuels, t'as les visuels des fiches en vitesse.
Ouais, elles sont juste là.
Ok, bah, les fiches ont l'air vraiment faciles à prendre en main, c'est cool. Enfin, moi je me souviens des fiches de l'Appel de Cthulhu qui étaient vraiment trop complètes pour se faire une première partie en détente. Bah. Et là c'est bien fichu.
Là, si j'analyse en tant que vieux rôliste l'affiche, on a les caractéristiques principales. Chance, physique, charisme, agilité, discrétion, intelligence, perception, précision. Le tout, j'ai regardé vite fait, les systèmes de règles, on sera basé sur du pourcentage. Donc, comme le jeu de l'appel de Cthulhu était sur du pourcentage, bah, il y a une compatibilité qui sera pas trop complexe. On a des points de santé, des points de vie de chat, des points de magie, des points de folie, ça c'est important, des pouvoirs innés, des pouvoirs temporaires et bien sûr une zone d'XP. Donc j'ai jamais joué en fait à cette version là, j'ai trouvé ça cool en fait de faire un jeu qui, alors ce sera visiblement pas par paresse, mais qui plutôt que de faire des pléthores de scénarios, préfère proposer une version alternative de jeu pour jouer dans les scénarios existants.
Non, c'est très bien, ça permet de revisiter un peu ce qu'on connaît déjà, ça donne un second souffle, c'est pas mal. Hein.
Ouais, alors ce sera l'occasion d'échanger justement avec l'auteur sur comment ça marche, parce que dans l'Appel de Cthulhu, souvent on interagit avec des humains, et là en tant que chat, j'imagine que si on se pointe, bonjour, je suis un chat, est-ce que tu peux m'aider ?
Tu veux dire miaou.
Déjà, et le type en face, il vire barjo, direct, ou alors il te tape dessus.
Après, c'est un monde où la folie est quand même pas mal présente. J'imagine qu'il y a quand même moyen d'avoir un pouvoir de soit télépathie, soit de parole.
Eh ben, de quand on regarde, divine. En fait, ils ont la possibilité d'être anthropomorphes.
Ah bah, ça résout pas mal le problème.
Moi, j'ai un chat qui se dresse sur ses pattes et puis qui commence à me causer. Je vire barjo quand même. Hein.
Mais anthropomorphes, du coup, est-ce que ils prennent une attitude de bipède ou est-ce que vraiment ils peuvent changer leur silhouette?
Et bah, c'est une bonne question.
Anthropomorphe, du coup, c'est vraiment qu'il y a la morphologie d'un humain, donc ça
comme ce qu'on voit là, en fait. Tu vois, regarde.
Ouais, mais là, il marche juste sur ses deux pattes arrière.
Ouais, mais son bassin est entreversé. Il a les épaules larges. Parce qu'on a, un petit chat qui nous regarde avec une petite cape qui a l'air méchant. Il a une espèce de plastron en dessous. J'ai l'impression
ouais,
là.
Ouais, je vois une sorte de cuirasse un peu.
Ouais. Et il a pas l'air très très joyeux, le gros. Moi,
il est là pour.
Je lui donnerai pas de la carte pâtée, moi, celui-là. Bref, voilà. Donc, ça a l'air d'être un projet bien cool. Donc, ce sera l'occasion d'en discuter avec son auteur dans très, très, très peu de temps, normalement.
Tu sais quand ou pas?
J'aimerais bien pouvoir faire au moins l'interview pour dans 15 jours. Et puis, si on a le temps, le jeu dans l'intervalle.
Parfait.
Parfait. Quoi dire de plus? Je pensais tenir 40 minutes avec ça, mais non.
Vous pouvez gagner une peluche apparemment en devenant donateur pour les melons de Viltar.
Ah ouais? Où est-ce que t'as vu?
Il y a une petite peluche.
Là.
Ouais, ou un porte-clés, je sais pas.
Ou un bonnet, c'est pas un bonnet?
Un bonnet, ouais, peut-être un bonnet.
Attends, qu'est-ce qui a marqué? Les carnets de bestiaire. Ah ouais, ça, j'ai vu ça. Le bestiaire sera sur un carnet à spirale que tu pourras mettre devant toi. En fait, tu mets la créature, pouf,
ah, tu poses. Pratique.
Très pratico-pratique. Non, je crois que... Il y a une statue de Bast. Ah, c'est une piste de des chats et une mascotte. Il y a une mascotte.
Ok.
Donc, il y a une peluche.
Vous pouvez créer votre secte autour des moments d'Ultar.
Voilà. Oh, trop bien.
Vous irez chasser des couleuvres et des souris et vous les sacrifieriez.
Il faut les ramener à vos enfants en les posant sur leur lit.
En arrachant la tête.
Ouais, super.
Miam.
Déjà, il y a plein de trucs, il y a plein de visuels, il y a plein de trucs.
J'ai l'impression que tu peux... Est-ce que tu as des compétences différentes selon la race de chat?
Oui.
C'est une question que je me pose.
Visiblement, oui.
Est-ce que les sphinx, ils glissent entre les doigts de tout le monde? Genre, ils sont inattrapables?
Non. On va rester un peu sérieux quand même. Mince. On a bien dévié en fait de ce que je voulais dire au départ, mais c'est pas grave. Donc voilà, on aura l'occasion de reparler des chats de manière plus poussée avec l'auteur d'Emile Montdutard très prochainement. De quoi on peut parler?
Oui.
On va vous laisser un petit temps. Non, je plaisante. On va pas vous laisser un petit temps comme ça. On va vous mettre un petit fond musical. Avant de reprendre l'antenne, qu'est-ce que tu aimerais écouter, Nolwenn?
Qu'est-ce que j'aimerais écouter? Si tu as du Deluxe, en vrai.
Ah ouais, du Deluxe, c'est bien ça.
Je suis en train de retourner me coincer dans les années 2010 en termes de genre musical et de banger musical.
Un petit moustache gracias avec la Ruquette à nous?
Allez,
ça va être pas mal ça. On va vous faire une petite pause musicale dans quelques instants avec Deluxe. Donc si vous connaissez pas, vous allez découvrir, c'est bien cool. Avec le morceau en duo avec la rue qui est à nous et qui s'appelle Moustache Gracias. Et ça, ce sera sur le 101.5 de Radio G. On se retrouve tout de suite après.
Moi, je suis un peu paumé, les gars. Je ne sais pas.
Pas de rendez-vous samedi soir sur la terre. Y'avait trop de place, pas d'âme qui vive. Le monde était vide. Aucune limite, personne à séduire. Tu connais la suite, j'avais quand même la dire. C'est l'origine et ce sera l'avenir de l'humanité.
Vive la moustache, ce petit coup de hache auquel on s'attache plus qu'on ne s'habitue. Vive la moustache et la reine des moustachus. Vive le culot et la moustache de Frida Kahlo.
Moustache gracias. Moustache gracias. Moustache gracias.
Ta moustache a poussé, des pizzas sous le nez. Ta moustache a poussé et je t'ai embrassé.
C'est poussé, tout rasé, se poilé, on l'a pas agi, l'agile, la sauté du chapeau, les chapeaux des mille ors s'empilent sur des rythmiques épidermiques, laissant entrer avec classe
l'ombre de la moustache, ce petit coup de hache auquel on s'attache plus qu'on s'habitue. Vive la moustache et la reine des moustachus. qui veut le culot et la moustache de Frida Kahlo. La moustache, ce petit coup de hache auquel on s'attache, plus on s'habitue. Vive la moustache et la reine des moustachus. Vive le culot et la moustache de Frida Kahlo. Moustache en chevron, en croc, en guidon, à la mexicaine, en morse, en fer à cheval, à l'impériale, anglaise, naturelle, postiche, en trait de crayon, en brosse à dents.
Moustache Gracias sur le 101.5 de Radio G, c'était Deluxe. Voilà.
De quoi qu'on parle?
Ben, c'était la question, parce qu'en fait, on voulait parler de trucs et on a commencé à parler de machin et on n'a pas fait.
En vrai, si je peux relayer l'info.
Vas-y.
Je sais pas si parmi les auditrices, auditeurs, il y en a qui suivent La Bonne Auberge. Moi, en tout cas, je suis depuis le début. Il s'avère que Studio 17, du coup, le studio qui produit La Bonne Auberge et les one-shots et les campagnes qui tournent autour, va lancer sa propre plateforme de diffusion pour leur campagne et pour leur contenu. C'est-à-dire qu'ils vont quitter YouTube. Donc, il y a une vidéo d'une heure où Max Mammouth explique tout ça. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur aussi, voilà, comment se porte le jeu de rôle français et comment se portent les créations originales de jeu de rôle en France, les diffusions un peu de campagnes en actual play, ça peut vous permettre d'avoir des infos en plus en comparaison de nos compatriotes américains qu'on fait ces Critical Role. Pareil, ils ont fait beaucoup de projets, donc ça peut être bien d'avoir un point de comparaison sur comment ça se passe en France, si jamais vous suivez.
Bah, surtout que là, l'idée de créer une plateforme de diffusion en full autonomie, ça peut être cool. Ça leur permettra de diffuser différents formats, c'est ce qu'ils proposent. Faut savoir que pour l'instant c'est déjà financé, hein. Alors je sais que les financements, il y a plein de débats, hein. Il y a des gens qui disent ouais, mais on met des paliers pas chers et puis comme ça on sait qu'on va aller plus loin que si on met des paliers trop chers. Donc des fois les montants correspondent pas vraiment aux besoins réels. Faut savoir que là ils demandaient 30 000 euros de base et ils sont rendus à 140 000. Il reste 13 jours. Et que ce que eux demandent surtout, en fait, c'est que vous puissiez prendre un abonnement d'un an à la plateforme VOD pour 30 balles. C'est pas la mort. Ça peut permettre d'avoir pas mal de contenu. Tout dépend de la fréquence avec laquelle ils vont diffuser leur truc.
Oui, et puis un des points aussi, c'est que tant qu'ils étaient sur YouTube et qu'ils n'avaient pas un financement un peu sûr. J'ai pas regardé la vidéo, donc j'ai un peu l'impression de parler sans savoir de quelle est la profondeur du sujet. Je pense que si en tout cas ils ouvrent leur studio, ils ouvrent leur plateforme, ils vont pouvoir se détacher et vraiment plus s'investir, ce qui permettra d'avoir un contenu plus régulier. Moi j'ai connu des moments où vraiment il y avait des mois sans rien du tout, et c'est vrai que si avec 30 balles par mois, vous avez vraiment une année avec du contenu régulier, ça vaut clairement le coup, hein, surtout pour une production aussi qualitative que La Bonne Auberge.
Ouais, et puis il y a des trucs qui sont annoncés. Alors, je connais assez peu La Bonne Auberge. Je sais que pour une émission qui parle de jeu de rôle, c'est un petit peu la honte. Mais ils parlent de trucs qui s'appellent Ascendance, de Rien Nave, qui serait un podcast filmé, de Chronokinésie. Il y aurait une saison. Il y aurait D&Drags. J'adore le titre.
Oui, c'est trop bien. C'est leur campagne drague en fait. Et mais c'est faut le voir. Faut pas que l'écouter. Autant bon voilà, moi les podcasts. Enfin La Bonne Auberge, j'ai découvert par podcast et au bout de 10 minutes de podcast, j'ai fait non, je vais trouver la version Actual Play. Et D&D Drags, c'est splendide, c'est magnifique. Oh, je vais vous spoiler du coup, hein, mais pour ceux qui n'ont pas vu le final de la campagne 1 de la compagnie du Baluchon, il y a l'intro qui a été faite par les joueurs et joueuses de D&D Drags. C'était un show mais incroyable.
Ah ouais.
Vraiment, ça rajoute des paillettes, c'est beau, les personnages ils sont pleins de vie, c'est trop bien. Et il y a aussi Lord Ali avec une campagne uniquement féminine. Il y a une campagne qui a été faite sur un thème plus sombre. Il y a la campagne des familiers. Donc il y a beaucoup de choses. Et tu vois, dans les paliers, il y a aussi de quoi lancer la campagne 2 de la compagnie des Baluchons. Donc il y a plein de belles choses qui peuvent être débloquées.
Ouais, il y a plein de trucs à voir. Donc ouais. Mais c'est un bon nom. Mais en fait, je manque de temps. En fait, faut que je choisisse entre regarder des podcasts ou dormir. Et des fois, je préfère dormir. Je sais, j'ai honte, mais des fois, je préfère dormir.
Quoi, mais quelle honte.
Et ouais. Tu nous rappelles qui c'est La Bonne Auberge?
La Bonne Auberge, c'est Lucien Maine. Il y a Max Mammouth et dans l'équipe, il y a Pénélope Bagieux, Lisa Villaret et le fameux Adrien Méniel.
Et ouais.
Plus d'autres divers invités, tous plus formidables les uns et les unes que les autres. Il y a beaucoup de beau monde. Oui, bravo. Je les aime vraiment beaucoup, donc je connais les noms par cœur.
Non, mais c'est bien, parce que je me suis dit, je vais la piéger là-dessus.
Ah, tu pourras pas.
Je ne pourrai pas, ok. De quoi on peut parler autrement? J'ai vu passer, je ne trouve pas...
On peut parler de la saison 4 de Vox Machina qui a été annoncée, quand je parlais de Critical Role.
Eh ben vas-y, fais-toi plaisir.
Bah voilà, si vous avez pas vu, il y a eu 3 saisons du coup qui sont disponibles sur Amazon. Et c'est des adaptations de, je crois, leur campagne principale. Là pour le coup, je suis moins Critical Role et j'ai plus suivi vraiment la série animée. Il y a la saison 4 qui a été annoncée récemment. Donc ne pas hésiter à vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui a un compte qui peut vous le prêter, cette série, elle est incroyable. Très 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 cool.
D'accord.
Il y a Donna Renew qui fait un doublage, donc c'est cool.
Ah ouais.
Ouais. J'ai écouté la voix d'un personnage, j'ai fait bah alors c'est Donna Renew.
Bon.
Ouais. Donc il y a plein de beaux mondes aussi là, c'est très cool.
J'en profite, un truc qui peut être cool aussi, si vous ne connaissez pas la Loutre Rôliste, c'est un éditeur de jeux de rôle qui fait plutôt des jeux de rôle à destination des... Non, il fait de tout, mais il a quand même toute une gamme à destination des plus petits. Et il avait fait Petit Pirate, qui était vraiment cool, où les enfants jouent des pirates, mais des pirates plutôt sympas. Et là, il vous reste 3 jours pour participer au financement participatif des suppléments d'aventure du jeu de rôle Petit Pirate qui permet d'aller sur les traces de 2 trésors légendaires. C'est déjà financé, hein, mais n'hésitez pas à aller remettre un petit coup de pouce, ça fait pas de mal.
Parlant de pirates, oui. Voilà, j'ai la question qui me vient en tête. Est-ce que tu as connaissance d'un jeu de rôle La Planète au Trésor ou quelque chose d'équivalent?
Metal Adventures,
okay.
Qui va s'en rapprocher, je pense, où on a des bateaux qui volent dans l'espace.
Oui, globalement, oui.
Et où on joue des pirates.
Oui, ça passe.
Dans une manière très très pulp, hein, parce que du coup on peut mettre les 2 vaisseaux côte à côte et on va faire de l'abordage en sautant d'un vaisseau à l'autre. Je sais, c'est très très idiot dans l'espace.
Non,
mais
ça fonctionne vraiment. T'es pas au courant? Ça marche?
Moi je trouve ça très idiot. Pour l'avoir pratiqué en jeu de rôle, c'est idiot.
Quoi, quand tu penses à tout de suite des univers de SF ou de fantasy, faut fermer les yeux sur certains points, sinon tout de suite
c'est mort.
La magie s'effondre.
Non mais un jeu, si vous avez l'occasion, Metal Adventure, un jeu de rôle vraiment cool avec du panache. Ouais, Vermine, ça c'est un supplément cadre campagne pour le jeu de Vermine de Benoît Attino, qui est sorti il y a quelques semaines, où on joue des humains.
Ça me fait penser.
Aucun rapport avec le film.
Aucun rapport avec le film.
Sauf que
ça parle de bestioles. Très bien.
Voilà. C'est pas mal ça, tout ça.
Je vois l'illustration et je vois qu'il y a un serpent. Ça m'hérisse un peu le poil, les jeux de rôle qui desservent la cause des mal-aimés.
Ah bah, en fait, là, ça désert pas du tout la cause de Malmé. Hein. C'est juste que c'est nous la.
C'est nous la vermine.
Non, c'est nous qu'on va se faire manger en fait.
Ok, bon, bah.
Voilà.
D'accord.
Donc c'est une gamme qui est sortie il y a un petit moment déjà là et qui justement là sort des suppléments, mais c'est aussi l'occasion grâce à cette campagne de reprendre les ouvrages d'origine. Voilà, on a parlé de plein de trucs, c'était pas mal, c'était les voix du scénarium, ça va ?
Oui, j'aurais juste un dernier mot à donner.
Vas-y.
Si jamais vous voulez faire des cauchemars, allez chercher des images de Cyclope. Voilà.
Le faites pas, sérieux. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour écouter et parcourir ensemble les voix du scénarium.